Retour à la normale très progressif pour la Gaune, mais les services mail et hébergement restent toutefois encore fortement perturbés. Les avocats très mobilisés depuis le début des émeutes et des procédures judiciaires, nous avons fait le point avec le bâtonnier de l'ordre qui était notre invité ce matin. Les soldes débutent samedi, mais apparemment ni les clients potentiels ni les commerçants n'ont pour l'instant la tête aux bonnes affaires. À Paris, Gérald Darmanin dévoile le dispositif de sécurité pour les Jeux paralympiques qui débutent dans une semaine. Selon le ministre de l'Intérieur démissionnaire, il n'y a pas de menace caractérisée. Et 3 athlètes calédoniens sont qualifiés pour ces Jeux paralympiques, découvertes dans la page sport du lanceur de javelot Vittorio Cavacava. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons en prenant des nouvelles de Lagoune. Les services du fournisseur d'accès à Internet sont toujours fortement perturbés par une cyberattaque. Et depuis la nuit de samedi à dimanche, Nicolas Legrand, les équipes de Lagoune sont mobilisées pour remettre les services en route.
Oui, et c'est un travail difficile étant donné l'ampleur de cette attaque. Attaque qui semble avoir été minutieusement préparée par des cybercriminels. Ils ont en effet pris le contrôle des infrastructures et demandent maintenant une rançon à Lagoune pour rétablir les réseaux. Une enquête est évidemment en cours et les autorités locales et nationales sont associées à la recherche des coupables. Concernant le fonctionnement de l'entreprise, Internet revient petit à petit chez les clients Lagoune, mais les autres services, eux, risquent d'être perturbés beaucoup plus longtemps. Écoutez Stéphane Matteo, le directeur général de Lagoune.
Depuis l'attaque, on a travaillé d'arrache-pied sur la mise en place du service primaire de fournisseur d'accès à Internet, c'est-à-dire les accès à Internet, tout simplement. Petit à petit, ça revient à normal sur cet aspect-là. On n'est pas encore à la fin de notre solution finale. Je dirais que nous sommes encore à quelques centaines de clients impactés. Mais notre souci concerne après notre deuxième activité qui est l'hébergement de nos services et des services de nos clients. Pour le moment, la messagerie Lagoune est en panne, nos services internes aussi, où le travail sera de plus longue durée.
Évidemment, beaucoup de zones d'ombre encore après cette attaque. Pour l'heure, Lagoune ne sait pas si des données ont fuité, l'attaque n'a touché que ses infrastructures. Comprenez que pour le moment, aucun client Lagoune particulier ou professionnel n'a été infecté par ce logiciel malveillant. On retrouve Stéphane Matteo.
La fuite de données n'est pas exclue. On n'a pas d'éléments concrets. Mais sur tous les aspects de cette attaque, tant que nous n'avons pas de certitude, nous n'excluons pas l'hypothèse. Nos clients, le conseil à leur donner pour le moment, c'est de bien mettre à jour leur système de sécurité, c'est-à-dire tout simplement leurs antivirus. Mais il n'y a pas eu de rebond au moment prouvé sur un client quelconque. Donc cette attaque n'a été que sur les infrastructures de Lagoune.
Alors si vous avez des questions ou des inquiétudes, vous pouvez joindre Lagoune par mail à contact@ofratel.net, contact@ofratel.net.
C'est le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nouvelle-Calédonie qui était notre invité ce matin. L'occasion de revenir avec Maître Philippe Reuter sur le travail très important fourni depuis le début de la crise insurrectionnelle par les avocats qui sont mobilisés malgré toutes sortes de difficultés, nous a-t-il dit.
Bien sûr, ça a été une période compliquée, mais comme pour toute la population calédonienne, hein, puisque en fait, les avocats, évidemment, il y en a certains qui, comme tous nos concitoyens, se sont trouvés bloqués chez eux, ont pris des risques, ont vu quelquefois leur maison, pour certains, menacée d'être brûlée. Donc voilà, ils ont connu, comme tous les citoyens, les mêmes risques. Et dans le même temps, il a fallu assurer très vite nos missions. Des gardes à vue, il a fallu trouver des avocats très rapidement, au pied levé. Je vous rappelle que c'est une époque où on ne circulait pas facilement. Dans Nouméa, il y a certains quartiers qui étaient enclavés, on n'en sortait pas. Tout a été compliqué et pourtant les avocats là, ont assuré leur mission qui était surtout de ne pas bloquer la machine judiciaire. Et donc en tant que bâtonnier, bien évidemment, je désignais des avocats pour assurer la défense des auteurs et la défense des intérêts des victimes.
Et si la partie pénale de la justice a fait l'objet de renforts et fonctionne de manière fluide, estime Maître Reuter, il regrette en revanche la lenteur du système judiciaire dans les autres domaines.
C'est tout ce qui concerne le droit des sociétés avec le tribunal mixte de commerce, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de liquidations, de mises en redressement. Donc là, je crois qu'à mon avis, il faut renforcer les moyens pour aider le magistrat qui est en place. Mais vous avez le tribunal du travail également, puisqu'il y aura énormément de, probablement, il peut y avoir des contentieux. La juridiction familiale également, puisqu'on est dans une période où il peut y avoir des départs du territoire, il y a des drames humains, il y a des affaires de garde d'enfants, et je ne sais pas si, dans tous les cas que je cite, le tribunal de première instance est doté pour faire face à toutes ces exigences. Et en tout cas, il faudra qu'il le soit, parce que les besoins de la population et des justiciables sont cruciaux, ils vont augmenter, et là, aujourd'hui, on est dans une situation où on a des décisions qui sont rendues beaucoup trop tardivement, en tout cas, pas dans des délais raisonnables et je crois qu'il va falloir remédier à cela.
Face aux nombreux drames humains que doivent traiter les avocats, la justice doit donc répondre plus rapidement, estime Philippe Rotter. Par ailleurs, le barreau de Nouméa a renforcé son dispositif de permanence gratuite pour tous les justiciables, mais aussi pour les entrepreneurs.
Deux fois par mois, on fait des consultations gratuites hein, au bénéfice des adhérents de la CCI. Et là, probablement demain, je vais signer une convention pour renforcer de ce dispositif, là, plus précisément pour les chefs d'entreprise, pour les problèmes de droit du travail, de contrat, tous les problèmes qui peuvent se poser pour les chefs d'entreprise en ce moment. Donc, on a des dispositifs en place, on les renforce, et les avocats ont bien conscience qu'à l'heure actuelle, il faut être à l'écoute de la population, il faut être solidaire, il faut aider les gens, parce que c'est une période qui est extrêmement difficile.
Maître Philippe Rotter, invité ce matin sur Radio Rythme Bleu, c'est évidemment un entretien à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. D'abord, alors que Lagoon est victime d'une cyberattaque, on en a parlé au début de ce journal, 86% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la Nouvelle-Calédonie est une cible privilégiée dans le contexte particulier que nous connaissons depuis 3 mois. Ils sont 14% à penser que ce n'est pas le cas. Et puis voici notre question du jour. Est-il normal, selon vous, de sanctionner sévèrement les élus qui tiennent des propos injurieux dans l'hémicycle, comme ce fut le cas hier au Congrès de la Nouvelle-Calédonie? Si vous trouvez que c'est normal, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment la préparation des soldes qui débutent samedi.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Promotion, bonnes affaires, prix cassé, les soldes débutent ce samedi. Ce sont les premières qui vont se dérouler après les émeutes. Et apparemment, Léana Colombo, les Calédoniens ne semblent pas trop avoir l'esprit aux bonnes affaires.
Et oui, c'est dans une période des plus moroses qu'arrivent ces soldes d'hiver. Depuis plus de 3 mois, les Calédoniens sont préoccupés par le contexte économique et politique du territoire. Et si par moments, la situation semble plus apaisée, ce n'est pas pour autant que les soldes sont dans l'esprit des gens. La plupart n'étaient même pas au courant que la période des soldes débutait. Ce samedi.
Je pense qu'il fallait quand même prévenir un peu les gens parce que du coup la vie c'est cher maintenant, surtout à cause des émeutes et tous les événements. Donc du coup si vous n'étiez pas là, j'aurais pas su que c'était samedi et je pense qu'on n'aurait pas pu avoir cette information en dehors de tout ça.
Je pense qu'il faut communiquer malgré tout parce que ça reste leur travail, ça reste leur gagne-pain. Et je pense que la population, si elle n'est pas informée, elle ne viendra pas. Mais il faut que ça soit aussi des soldes, des vrais soldes. On était venus là pour la boutique pour voir s'il y avait justement des vêtements parce que ben, tous les enfants grandissent comme tout le monde, hein. Soit on maigrit, soit on grossit pour s'acheter quelque chose. Mais on regarde justement. Mais je ne savais pas du tout samedi. Alors du coup, on va attendre samedi, on va pas acheter aujourd'hui.
On habite à Denver et puis on est loin de tout. Ben, du coup, ben, on sait pas. Puis la plupart des magasins sur Denver et tout, il n'y en a plus. Du coup, ben, on vient en ville puis on découvre un peu la vie.
Une période particulière également pour les commerçants qui se retrouvent frileux quant à faire de la publicité. Mais pour Yael, vendeuse chez la boutique Melrose en centre-ville, les raisons de cette diffusion timide sont nombreuses.
Partout, personne n'est au courant que c'est les soldes. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de grosses enseignes qui ne vont pas faire les soldes. Pour la plupart, elles ont soit brûlé, bah soit elles n'ont plus de stock puisque tout a été volé. Donc du coup, elles ne peuvent forcément pas participer. Et je pense aussi qu'il y a également beaucoup de magasins qui ne peuvent pas en fait participer aux soldes parce qu'il y a eu une trop grosse perte à cause des fermetures qui ont duré pour certains 1 mois, pour d'autres même plus. Pour d'autres encore sont fermés aujourd'hui. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a un manque de communication des commerçants. Les commerçants attendent un peu de voir qui va faire sa première pub de soldes pour voir est-ce qu'on le fait, est-ce que tout le monde joue le jeu. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un gros manque de communication. communication, sur les réseaux. Moi, personnellement, je n'ai rien vu passer de aucune enseigne. Alors, nous, la plupart des clientes qui viennent, on leur dit que c'est les soldes samedi, parce que c'est pas un secret, donc on veut quand même leur dire que les soldes arrivent bientôt. Après, il y en a beaucoup, du coup, qui repartent et qui disent, ah, bon, on reviendra au moment des soldes. Mais la plupart des clients, vraiment, sur 10 clients, il y en a peut-être 9 qui sont pas au courant que c'est les soldes. Donc, c'est vraiment qu'il y a un très gros manque de communication, et donc on essaye de le dire au maximum à tout le monde, quoi.
Et Rojun est vendeur chez la boîte à chaussures. L'entreprise a décidé, pour des raisons logistiques, de ne pas participer aux soldes d'hiver cette année.
Pour les soldes, on ne compte pas en faire. C'est-à-dire qu'on n'a rien du tout à mettre en solde. Beaucoup de marchandises très récentes qu'on a reçues, donc forcément, on ne peut rien solder pour le moment. Mais pour y remédier, justement, on a fait des petites promos hiver, justement. Une période de promo que les gens aiment bien et qui pourront retrouver même après les soldes aussi. Parce que nous avons une deuxième boutique aussi à Ducos, où nous avons un coin des affaires. Tout dépend du commerçant, tout dépend de ce qu'il avait à vendre ou pas. Si c'était déjà de la marchandise qu'il avait reçue avant le 13 mai, ou si c'était de la marchandise qui datait déjà un peu. Donc peut-être pour lui que ce serait pas très gênant. Mais pour ceux qui avaient de la marchandise reçue juste avant le 13 mai, c'est quand même assez gênant de les mettre en solde. Parce que c'est quand même de la marchandise très récente.
Des propos recueillis par Sarah Mégerie. Et pour rappel, la période des soldes se déroulera du samedi 24 août au dimanche 22 septembre.
Des étudiants de la province sud ont pris l'avion la nuit dernière. Une partie d'entre eux s'était envolée déjà samedi pour poursuivre leurs études en métropole. Ils vont être rejoints par une trentaine d'autres jeunes qui sont donc partis hier soir après s'être donné rendez-vous baie de la Moselle. Parmi ces étudiants, Françoise, Samuel, Naïma et Alan.
Je vais à Fontenay-le-Comte, dans le lycée de Bel Air. Je vais pour un BTS Anabiotech, analyse biotechnologie, sur 2 ans. Et puis, j'aimerais continuer sur 3 ans pour faire une licence de biologiste et revenir au pays et ouvrir mon cabinet de biologiste. J'ai hâte, le fait de reprendre l'école, mais quitter ma famille, c'est dur, quoi, comme toujours. Mais bon, c'est un mal pour un bien, après.
Je vais à Strasbourg, dans l'INSA, c'est une école d'ingénieur, du coup, pour 3 ans minimum. Et je vais faire de la topographie, là-bas. C'est pour être diplômé ingénieur, du coup. C'est plus dans le génie civil. Mais je pense faire d'abord mon expérience en dehors du pays. Ah, c'est content, parce que moi, j'attendais ça depuis longtemps, de découvrir de nouveaux horizons.
Je suis excitée, je suis un peu triste de quitter ma famille, mais je suis surtout excitée de partir en France, commencer mes études. Là, je pars à l'université Jean Moulin Lyon 3, et je vais faire une licence de japonais. C'est minimum 5 ans. Donc, je fais la licence plus le master, c'est obligatoire. De base, mon projet, c'est d'être prof de japonais. Après, tout dépend. Je sais qu'il y a différents masters qui pourront s'ouvrir à moi. Donc, pour l'instant, c'est prof, mais je pourrais voir toujours sur place.
Pour une licence de l'information et de la communication. Après avoir fini ma licence et mon master, j'aimerais bien revenir ici pour travailler en tant que journaliste. J'essaye de viser le doctorat, donc on essaie 8 ans. Mais bon, après, si je peux déjà avoir ma licence, c'est bien.
Ces étudiants, une fois qu'ils seront arrivés en métropole, seront accueillis par une dizaine de personnes qui vont les aider dans les dernières démarches qu'ils doivent effectuer avant la rentrée scolaire. Marie-Laure Ukewe, directrice adjointe de l'éducation et de la réussite de la province sud, était sur place pour leur départ hier soir.
On a un peu moins d'une trentaine d'étudiants qui sont primo-partants, donc c'est la première fois qu'ils partent pour la métropole. Donc chacun a son lieu d'étude, mais la plupart, un groupe de 22, iront nous rejoindre sur la ville de Lyon, rejoindre nos équipes de la province sud qui sont déjà sur place pour effectuer avec eux les dernières démarches. On va avoir aussi un accompagnement à la vie quotidienne, comprendre un peu les codes et maîtriser. Et ça pendant 3 jours. Donc ça va être la recherche d'un logement, la concrétisation de l'ouverture d'un compte bancaire, aussi se procurer une puce, un forfait internet, faire les démarches concernant l'état des lieux d'un logement, l'ouverture des compteurs d'eau, d'électricité, de gaz. Ça va être un peu toutes ces démarches-là qui vont être faites avec eux. Évidemment, le numéro de sécurité sociale, ainsi que tout ce qui va concerner les aides au logement.
Et d'autres étudiants de la province sud doivent encore partir. Les départs sont prévus les 25 et les 29 août. À l'arrêt depuis le 13 mai, le monde de la culture reprend petit à petit ses activités. C'est le cas du Centre culturel du Mont d'Or qui relance sa saison à la fin de la semaine, Léo Fichou.
Oui, le premier spectacle de cette nouvelle saison culturelle est programmé samedi, le matin à 10h et l'après-midi à 16h au Petit Théâtre. Un spectacle de marionnettes produit par la compagnie de théâtre Micmac. Paul Barry, chef du service de la culture de la ville du Mont d'Or, avait hâte de pouvoir proposer en toute sécurité de nouveau des spectacles au Centre culturel.
On est très content de pouvoir réouvrir les portes. On commence avec un petit spectacle qui s'appelle Rendez la Lune. Donc nous, on a dû revoir un petit peu nos façons de diffuser des spectacles, puisqu'on essaye de limiter les diffusions en soirée pour pouvoir permettre à la fois au public, mais aussi aux techniciens, de pouvoir rentrer chez eux avant le couvre-feu. Et donc voilà, on a dû un petit peu, comme on dit, se réadapter. Il y a des métiers en jeu, il y a des gens qui ne sont plus payés depuis 3 mois. Et donc, il était important pour nous de réouvrir. Donc la question sécuritaire, elle est bien entendu sur la table. Donc nous, quand on aura des spectacles en soirée, on aura des prestations d'agents de sécurité qui seront dans la zone. De toute façon, nous avons la police municipale qui est à côté. Les routes, en tout cas pour venir jusqu'à Boulari, de Nouméa, elles sont assez libres d'accès. Mais normalement, tout a été pris en compte pour ça.
Même si la saison reprend doucement au Centre culturel du Mont d'Or, l'avenir reste incertain. Paul Barry et le service de la culture de la ville du Mont d'Or s'activent pour trouver des artistes prêts à se produire de nouveau et donc de proposer une programmation assez variée.
Oui, alors déjà, il a fallu sonder un petit peu tous les artistes, en fait, pour savoir qui souhaitait maintenir les spectacles ou qui souhaitait désister, annuler ou pourquoi pas reporter pour 2025 quand peut-être on aura une meilleure visibilité, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'anticiper des choses quand on n'est pas sûr de comment sera le lendemain. En octobre, on aura 2 écoles de danse qui viennent nous voir. On aura le centre de danse L'Avant-Scène de Stan Cabarlouette qui viendra proposer le spectacle La Leçon de Danse. Donc ça sera le 5 octobre. Et on aura l'école de danse Tehei, donc c'est de la danse thaïsienne, qui vont faire leur gala annuel. Et donc ça sera le 12 et 13 octobre. Ensuite, on aura, pareil, sur ce mois d'octobre, un autre spectacle de théâtre autour du conte d'Ansel et Gretel. Ça sera le 26 octobre. On reste optimiste et on espère pouvoir proposer tout de même des choses dans les mois qui arrivent, pour espérer redonner le sourire aux gens.
On le rappelle, le premier spectacle de la nouvelle saison culturelle du Mont d'Or, c'est samedi à 10h et à 16h, un spectacle de marionnettes pour les enfants. Et pour réserver vos billets, ça se passe directement sur le site internet du Centre culturel du Mont d'Or.
2024 est apparemment une bonne année pour l'observation des baleines. De nombreux animaux sont présents dans le lagon depuis un mois et demi maintenant. Comme chaque année, les Calédoniens pratiquent évidemment le whale watching. Écoutez le docteur Tiffen Reed, elle est chef du service adjoint auprès de la Direction du développement durable des territoires de la province sud.
Bonne nouvelle pour 2024. On a un grand nombre de baleines qui sont présents dans nos eaux depuis un mois et demi maintenant, avec des spectacles fabuleux pour les personnes qui ont la chance de pouvoir les voir. On a un petit peu moins de professionnels qui sont sur le plan d'eau cette année pour faire du whale watching, puisqu'il y a quand même beaucoup de prestataires qui sont mobilisés sur les navettes du Mont d'Or. Mais il y a quand même un certain nombre de professionnels qui proposent des services pour pouvoir aller faire du whale-watching en respectant la réglementation. C'est vrai qu'au vu des événements qui se passent en ce moment, on ne peut pas dire que c'est une bonne année. Par contre, les gens qui sont en capacité de pouvoir aller sur des bateaux professionnels profitent d'un fabuleux spectacle. Donc c'est vrai que c'est le moment, il reste encore quelques semaines pour pouvoir profiter du spectacle.
Et pour ne pas déranger les baleines et leurs baleineaux, il est évidemment essentiel de respecter la réglementation provinciale, rappelle Tiffen Reed.
Les règles de base, c'est qu'on n'a pas le droit d'approcher à moins de 100 mètres les baleines. On ne poursuit pas, bien sûr, les baleines. Et une des grosses règles à respecter en tout temps, c'est que dès qu'il y a un baleineau, il faut se retirer de la zone, puisqu'on cherche vraiment à respecter en fait les mamans petits. Et il y a aussi des réglementations au niveau du nombre de bateaux et des heures d'observation qui peuvent être faites autour des individus. Les professionnels sont formés et aguerris depuis un certain nombre d'années maintenant, mais c'est très important de rappeler que ces règles s'appliquent aux plaisanciers. Et je pense que cette année, les gens profitent en fait des petits moments de bonheur en allant en mer. Et il y a plein de personnes qui ne connaissent pas forcément les règles au niveau du whale-watching. Et donc c'est vraiment ces personnes-là qu'on souhaite sensibiliser et surtout indiquer aux gens que s'ils veulent voir des baleines en respectant la réglementation, c'est de passer par des professionnels.
Et la réglementation complète est à retrouver sur le site internet de la province sud. Il est 11h50, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde, avec notamment la préparation des Jeux paralympiques. La cérémonie d'ouverture a lieu dans une semaine.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 000 000 de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite du journal, Jean-François Bodin.
Avec l'actualité en métropole et après les Jeux Olympiques, voilà les Paralympiques. Ils débutent à la fin du mois. Il n'y a pas de menace caractérisée, a indiqué le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin, qui a présenté le dispositif de sécurité mis en place pour cette nouvelle quinzaine de sports planétaires dans la capitale. Dispositif allégé par rapport aux JO, mais tout de même massif. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Selon le ministre de l'Intérieur, 25 000 policiers et gendarmes ainsi que 10 000 agents de sécurité privée patrouilleront dans les rues de Paris pendant la quinzaine paralympique. 300 effectifs des trois forces d'intervention spéciales RAID, BRI et GIGN viendront également appuyer ce dispositif hors norme. Concernant la cérémonie d'ouverture mercredi prochain, ce sont là 15 000 membres des forces de l'ordre qui seront chargés de surveiller les 35 000 spectateurs sur la place de la Concorde. Un défi de taille donc pour les policiers, d'autant que selon Rudy Mana, porte-parole national du syndicat Alliance Police, la fatigue commence à se faire sentir chez beaucoup d'entre eux.
Ça commence à tirer fort psychologiquement, physiquement, parce qu'on n'a pas eu de vacances, parce qu'on a dû être présent pour ce formidable événement des Jeux Olympiques. On a fait les efforts nécessaires pour cela, bien évidemment, mais on espère qu'après ce 8 septembre, on aura l'occasion de tout souffler, parce qu'on en a bien besoin.
Le policier se montre toutefois relativement confiant quant au bon déroulé de ces Jeux Paralympiques. Gérald Darmanin, de son côté, précise qu'à ce jour, aucune menace caractérisée ne pèse sur les épreuves. Les délégations sensibles, notamment Israël, seront en revanche particulièrement surveillées, comme lors des Jeux Olympiques.
Gérald Darmanin qui a par ailleurs lancé une procédure administrative pour fermer une mosquée dans les quartiers nord de Marseille. Fréquentée chaque semaine par plusieurs centaines de fidèles, l'imam de cette mosquée est accusé de promouvoir la violence et un islam rigoriste. Revenons aux JO Paris 2024. Les restaurateurs de la capitale qui s'estiment lésés par les restrictions pendant la quinzaine olympique vont pouvoir déposer des dossiers d'indemnisation. Ceux qui ont rencontré des difficultés étaient ceux qui n'étaient pas à proximité des sites olympiques, explique le président de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, Franck Delvaux.
Les touristes qui étaient là étaient vraiment des touristes JO. Et donc, il y avait beaucoup de monde autour des sites de compétition, autour de la Villette, au Club France, parce que c'était complet tous les soirs, donc ça débordait sur les brasseries et les bars à côté. Mais effectivement, dans les autres quartiers, c'était le désert, c'était extrêmement vide. Et on a eu la médaille d'or du télétravail pendant les JO à Paris, puisque toutes les entreprises étaient soit fermées, soit en télétravail. Donc, beaucoup d'établissements, notamment en restauration, bar-brasserie, se sont retrouvés avec des chiffres d'affaires à la baisse, mais de façon très importante. Ça a pu aller, alors quand c'était pendant les périmètres gris, zone grise, jusqu'à moins 70-80%. Et puis après, pendant les JO, là où il ne se passait rien, ça pouvait aller jusqu'à du moins 50, moins 40%.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. Les dossiers d'indemnisation peuvent être déposés, mais ils ne seront traités qu'à partir de 2025. Deux jours après la mort d'Alain Delon, des centaines de visiteurs font le déplacement à Douchy, ce village du Loiret dans lequel l'acteur s'était retiré. C'est là que doivent avoir lieu ses obsèques, dont la date n'a pas encore été précisée. Des visiteurs qui viennent souvent déposer des fleurs devant sa maison, un afflux qui a surpris la fleuriste de Douchy. Le reportage de Mathieu Prior.
Dès l'ouverture, une file d'attente qui rendrait jaloux tous les commerçants se forme devant la boutique. Pascal et sa femme sont venus de Seine-et-Marne.
On s'est dit une fois absolument des roses. On a pris trois roses blanches. Ça me semblait une belle couleur, blanc. Je pense que c'est quelqu'un que j'estimais profondément. Donc voilà.
Les roses blanches, Agnès ne compte plus combien elle en a vendues. Elle a reçu plus de 150 appels et près de 300 personnes se sont déplacées pour acheter une fleur. Depuis dimanche, elle ne s'arrête plus.
Je suis arrivée à 8h30. J'ai commencé à voir du monde qui venait chercher des fleurs. Bon, après, je dis, oh bah oui, je vais rester jusqu'à Allez, jusqu'à 5 heures, quoi. Ah non, mais quand j'ai vu, je pensais pas que ce serait comme ça, quoi. Dimanche soir, j'avais, pour ainsi dire, plus rien. J'ai des livreurs qui m'ont livré, et puis là, c'est reparti.
Mais la Montcorbonnaise ne peut pas assurer le service seule, alors sa famille lui prête main forte.
J'ai appelé à l'aide. Ça partait tellement chaud que... Puis j'avais tout, bah, toutes mes fleurs qui étaient arrivées et tout ça. Et puis là, j'avais plus le temps et de préparer et de recevoir les clients et tout ça, quoi.
Et la fleuriste reste motivée et souriante. Elle s'attend à couper des tiges par centaines jusqu'aux funérailles d'Alain Delon.
Bon courage, chère madame.
L'actualité à l'étranger en bref, et Joe Biden a publiquement passé le flambeau à Kamala Harris. Le président en exercice était ému lorsqu'il a prononcé le discours d'ouverture de la convention démocrate à Chicago, qui doit se refermer dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous par l'allocution de celle qui sera alors la candidate officielle du Parti démocrate pour la présidentielle du mois de novembre 2024. Et puis Maria Branias est décédée. Cette Espagnole était la doyenne de l'humanité. Elle avait 117 ans. La nouvelle doyenne de l'humanité est japonaise. Elle s'appelle Tomiko Itoka et elle est âgée de 116 ans. Il est 11h56. Dans un instant, c'est toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Et avant de retrouver Jean-François pour le sport, un clin d'œil à notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le football est à la une de cette page sport, Michael Juneski. On va parler de Lille qui est sur la bonne voie pour disputer la Ligue des Champions.
Oui, les Lillois ont pris une bonne option pour la Champions League puisqu'ils ont remporté le premier acte du barrage aller contre le Slavia Prague. 2-0 aujourd'hui. Les réalisations du jour sont signées Jonathan David et Eden Zerova. Un match maîtrisé, même s'il aura fallu attendre la deuxième période avant de voir le LOSC concrétiser sa domination. Le coach de Lille, Bruno Genesio, garde les pieds sur terre avec toujours la Ligue des Champions dans le viseur.
Évidemment, on est satisfait du résultat, du contenu aussi, même si on est toujours perfectionniste et qu'on aurait aimé creuser un écart un peu plus important, parce que je pense qu'il y avait la possibilité de le faire. C'était un match très très engagé, avec beaucoup de rythme, et il est très difficile de rentrer dans ce genre de match. En football, il faut toujours rester humble, prudent. On est confiant parce que 2 buts d'avance, c'est bien, mais on sait que tout sera remis en cause dès le coup d'envoi là-bas à Prague.
Et le match retour se disputera donc dans 8 jours sur le terrain de la capitale de République tchèque, avec à la clé une place dans la plus prestigieuse compétition des clubs européens.
En cyclisme, Primoz Roglic a remporté la 4e étape du Tour d'Espagne.
Ouais, le Slovène a devancé au sprint le Belge Lennart Van Etvelt. Il a pris au passage le maillot rouge de leader pour 8 secondes de mieux que le Portugais Jean Almeida. Le meilleur français au classement général est Pavel Sivakov, qui pointe à 1 minute 1 seconde du leader à la 11e place. Ce soir, le peloton s'élancera sur une 5e étape jusqu'à Séville à partir de 22h34 pour nous.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux paralympiques avec le CTOS, l'Agence nationale du sport et la BNC.
Ah oui, les Jeux paralympiques débutent donc dans une semaine. On en a parlé tout à l'heure dans le journal. Trois athlètes calédoniens sont sélectionnés pour cet événement en plein air. Pierre Ferbanque, Félicien Siapo et Vittorio Cavacava. Aujourd'hui, demain et vendredi, nous allons vous proposer de découvrir ces athlètes calédoniens. Et on commence, Michael, par Vittorio Cavacava qui prépare cette échéance en métropole.
Oui, à 29 ans, celui qui a commencé l'athlétisme en e-sport assez récemment va connaître le rêve des Jeux au lancer de javelot et au poids. Ancien volleyeur qui jouait en métropole en National 2 jusqu'à un accident de moto en 2019, le natif de Wallis a retrouvé la joie de l'athlétisme au pôle en e-sport de Nouvelle-Calédonie. Il sera en lice en catégorie F57, amputé fémoral. À l'approche du début de l'événement, la préparation s'est intensifiée pour Vittorio Cavacava.
Moi, je suis prêt et c'est un début pour moi, du coup, ça va, je suis bien. Pour la préparation, on essaye de faire avec. C'est maintenant que c'est court, ben, c'est un peu chargé comme ça. Arrivé à peu près aux dernières semaines, on est en récup et en ce moment, c'est accéléré, quoi. On va dire c'est accéléré.
Les Jeux paralympiques de Paris 2024, ce sera avant tout une grande découverte pour Vittorio Cavacava.
C'est la découverte, je ne peux rien dire, j'attends juste le jour de rentrer là-bas et de voir ce que ça fait. J'ai vu les Jeux olympiques, ça, c'est pas pareil que les championnats du monde, hein, en tout cas. C'est vraiment... Et en plus, c'est à Paris et t'as tout le public d'ici qui sont dedans et ça va changer un peu. T'auras du monde quoi derrière toi et le drapeau c'est toi qui le portes derrière toi pour la compétition.
Vittorio Cavacava à la découverte de ces Jeux paralympiques et du plus haut niveau pour le licencié du club Jules Garnier qui privilégie dans sa vie personnelle avant tout sa famille.
En dehors de mon sport, j'ai ma petite famille, ma vie de famille, ma fille qui est née, elle n'a pas encore un an. En dehors, je travaille pour la Ligue, je suis un agent en logistique et quelquefois j'aide ma chef à faire l'administration. Sinon, à part ça, en dehors, ben, je profite avec mes amis. On part jouer au volley, jouer au pétanque. Je profite de mes temps libres avec ma fille et surtout avec ma fille et ma femme, ma copine.
À son palmarès, il a déjà terminé 5e des championnats du monde de 2023 au lancer de javelot, 8e au poids. Cette année au Japon, il a terminé à la 6e place au javelot. Puis au dernier championnat de France, à Albi, en juillet, il a décroché notamment le titre national en javelot fauteuil. Pourquoi ne pas rêver de podium pour ces Jeux dans la capitale?
Nous, on est arrivé il y a un mois. On avait nos championnats du monde avant à Kobe. Et mes résultats étaient... C'était pas trop ce que je voulais. Et au championnat de France, on est revenu ici et c'était à Albi. Et j'ai réussi à faire des perfs avant et pendant la compétition au championnat de France. On a tous le même objectif, c'est d'essayer de gagner une médaille. Il faut le faire. Hein.
Vittorio Cavacava qui répondait à Morgane Boucher. La finale du javelot messieurs catégorie F57 sera à suivre dans la matinée du dimanche 1er septembre pour nous. La finale du poids dans la matinée du samedi 7 septembre avec, on l'espère, des podiums pour Vittorio Cavacava pour sa première participation aux Jeux paralympiques.
Et ces portraits des athlètes calédoniens sélectionnés pour ces JO paralympiques sont aussi à retrouver en format vidéo sur le site internet du CTOS.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux paralympiques avec le CTOS, l'Agence nationale du sport et la BNC.
C'est la fin de ce journal. Il est midi et 3 minutes. Infomag continue avec Bruno Rebelle jusqu'à 13h qui sera l'heure du rappel des principaux titres de l'actualité. Je vous souhaite une belle après-midi.